Nous allons maintenant faire une petite sélection des films présentés en paysage. Donc c'est une vision panoramique du cinéma coréen d'aujourd'hui. On va pas parler de tous les films, il y en avait une petite quinzaine, vingtaine, mais on a fait une section de films qui nous semblaient intéressants ou de nos coups de cœur. À commencer par Quiet Dream de Zhang Lu. Kefren, c'est quoi Quiet Dream?
Quiet Dream, ça raconte l'histoire de trois personnages masculins et un personnage féminin qui se retrouvent dans un bar et qui vivent quelques péripéties comme ça, sachant que les trois personnages masculins représentent chacun une particularité de la Corée. Il y en a un qui est sino-coréen, un qui est nord-coréen et un qui est coréen. Et donc, ils se retrouvent dans un bar où ils essayent tous de draguer la même fille qui tient le bar, enfin le
Histoire de
café.
votre vie.
Et justement, ils vivent des péripéties comme ça aux alentours du café, de la petite ville. Et voilà.
Des péripéties
Ouais,
minimalistes.
C'est un bien gros mot,
péripéties. Comme un film d'action.
Oui, non, mais.
À un moment, il a soulevé sa tasse comme
ça. Non, mais les péripéties, c'est un
Ce que
film.
je pense en dessous, c'est du blockbuster.
C'est un film assez léger et onirique qui, justement, a un air de Aung San Suu, un faux air de Aung San Suu, vu qu'il se retrouve toujours à boire et à discuter. Mais il y a quelques relents fantastiques et oniriques comme ça comme ça donner des fulgurances dans le film et qui justement nous tiennent en haleine et nous font nous questionner sur ce que le film raconte vraiment, ce qu'il pourrait raconter et justement sur quel est le spectacle auquel on est en train d'assister qui est entre le rêve et la réalité.
Nicolas, c'est un de tes coups de cœur aussi.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un film qui m'a un peu, enfin, qui m'a complètement surpris dans la direction qu'il a prise, quoi. Ça commence vraiment comme un film d'Aung San Suu, on en parle, mais t'as les mêmes thématiques, les mêmes types de personnages, ils boivent, ils sont à un bar, ils boivent, ils parlent de leur vie quotidienne, enfin voilà. Fin, et au fur et à mesure, ça commence, ça part un peu en cacahuète, quoi. C'est-à-dire que les temporalités commencent à un peu s'éclater, t'as un montage, hein. Complètement.
Il y a des transitions ouais, assez inattendues.
Assez bizarres, où des fois, tu passes d'une scène à une autre, tu ne sais pas vraiment pourquoi scène là, et tu comprends au fur et à mesure où le réalisateur va en venir. En fait, c'est monté comme une subsection de rêverie qui.
Ouais, c'est net, onirique.
Voilà, où certains personnages, en fait, on ne sait pas vraiment s'ils existent vraiment. Puis, c'est assez enivrant comme film parce que. Il y a vraiment des scènes où tu te demandes pourquoi cette scène-là à ce moment-là, et en fait, ça donne. Parfois, c'est assez drôle, parfois, c'est assez déroutant. Par exemple, une scène où la grand-mère sort du placard en disant.
Ah oui, je comprends.
En disant qu'elle est en train de crier, quoi. Alors, ça arrive comme ça au milieu du film, pourquoi. Ouais, c'est un peu ce montage très bizarroïde qui donne une atmosphère au film assez unique, qui nous plonge comme ça dans une espèce d'état de rêverie comme les personnages et en fait comme disait Kefren, ça représente un peu les personnages représentent une partie de la Corée chacun à leur manière et à travers ces personnages on a l'impression que le réalisateur admet voir que une espèce de enfin un espoir de réunification en fait entre les différents peuples issus de Corée, que ce soit Corée du Sud, même Corée du Nord, et je sais pas, une espèce de message d'espoir, quoi. Alors que il y a toujours une fracturation assez nette aujourd'hui.
Fracturation.
Ouais, fracturation. Et voilà, donc, je trouve le film vraiment intéressant à ce niveau-là, et puis je trouve que j'étais vraiment.
T'as développé tout ça dans ta critique qu'on peut lire actuellement sur le site. Justin, tu veux rajouter un mot sur le film ou
bon, non, je vois ce que veut dire Nicolas, mais à part le personnage du Nord-Coréen, où voilà, c'est quand même appuyé quand il pense, voilà, il repense à son pays, à une péripétie avec une fiancée à la fin. Pour le reste, honnêtement, si on n'est pas, ça reste quand même très flottant, très abstrait. C'est pas vraiment parlant quand même.
En fait, quand on y repense comme ça, il y a vraiment des scènes qui me restent. C'est genre la scène du cinéma, par exemple.
Oui.
Ça paraît rien comme ça, mais
c'est vrai qu'elle est pas mal,
elle est vraiment très drôle. Et pareil, la scène où ils sont sur
le toit
et découvrent un film. qui a été créé, il me semble, pour l'occasion, dans lequel quelqu'un épluche un œuf pendant 5 minutes. On les voit réagir à cette scène.
Non, c'est plus le sous-texte, un peu, le côté social, je le vois avec les personnages qui sont un peu marginaux, voilà. Un peu perdus, qui font rien de leur journée.
Ah, ils ont tous une caractéristique assez particulière.
Par contre, le sous-texte un peu plus politique sur, par rapport à leurs origines et autres, moi, je trouve ça très... Ça reste
assez flottant, mais comme tout le film, en fait. C'est pas,
à,
c'est
des à part, rêves, le,
en
à part fait. Le nord-coréen...
C'est pas un discours appuyé ou un pamphlet social ou comme ça. C'est des rêveries d'un réalisateur qui comme ça, à travers des scènes un peu atmosphériques, flottantes...
Même des fois inquiétantes. Voilà. À un moment, il y a un mec dans le bar, il a un fusil.
c'est un peu comme des pensées, une succession de pensées. Quoi. Ce serait comme un philosophe qui ferait un livre où il mettrait des pensées un peu archaïques comme ça. Ben là, le film, il est un peu construit pareil. Et je trouve ça assez intéressant. Et puis il y a des scènes comme ça, pareil, la scène du cinéma, il y a aussi la scène où ils boivent un coup sur un toit, je crois, ouais. Avec le plan à 360, tout le monde disparaît, là tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, et là ça interroge quand même.
C'est pas inintéressant.
La fin est très ouverte, bon, il y en a qui n'aiment pas ça quand la fin est toujours sujet à une interprétation diverse, mais moi je trouve ça vraiment un très beau film.
C'est très beau.
C'est illégal.
On va passer au deuxième film qu'on a sélectionné dans la section paysage, qui est The King. Nicolas, pourquoi on a sélectionné ce film?
Je sais pas, c'est toi qui as fait la sélection. The King, je sais pas, parce que c'était un... Il n'y a pas grand chose à dire sur ce film en plus.
Mais c'est sympa, non?
C'est l'ascension d'un petit avocat qui, au départ, veut défendre un peu la veuve et l'orphelin, qui se retrouve engagé dans le système gangréné par la corruption en Corée, quoi, le système juridique. Et il se retrouve à être un espèce d'homme de main du gros procureur local qui est mouillé dans pas mal d'affaires et qui fait un peu ce qu'il veut avec les hommes politiques et tout ça. Donc c'est un peu lui qui a tout le pouvoir, quoi. Et voilà, donc c'est un peu une réflexion déjà vue sur le pouvoir et la manière dont il gangrène toutes les strates de la société coréenne.
Elvire,
j'ai vu qu'une partie du film. Non, mais la première partie. Et même si c'est absolument pas original en termes d'histoire,
c'est plutôt bien mené.
Par contre, j'ai trouvé ça vraiment bien mené, super bien rythmé.
Ouais, ça, on s'ennuie pas, c'est long, mais ça.
La réalisation est vraiment pas mal.
Ouais, il y a une
dynamique. Surtout le début, en fait, qui se passe dans les années 70-80.
Une dynamique scorsésienne.
Il y a ça, et il y a un côté très outrancier aussi dans le film. T'as des séquences quand, par exemple, le personnage joué par John Woodson qui danse et tout le monde danse. Il y a le côté scorsésien du Loup de Wall Street, même si c'est pas aussi, puissant
l'artueuse.
Kefren, t'es d'accord avec ça?
Oui, moi je suis d'accord avec Nicolas, mais justement je me mettrais le trait sur la mise en scène qui est justement très scorsésienne, très dynamique. La manière de montrer l'ascension du personnage, etc.
Et sa chute, alors.
Ouais.
Oui.
Je ne serais pas à Scorsese. J'ai pas vu le film non plus.
Mais la dimension outrancière, justement, le problème, c'est que ça amenuise un peu le propos, quoi. Ça le rend un peu caricatural par moment. Et du coup,
c'est pas très grave d'amenuiser le propos, parce que ça fait quand même 10 ans qu'ils nous font chier avec le système judiciaire coréen, donc bon, c'est pas très grave.
We get it.
J'imagine qu'on va pas parler de New Trial, vu qu'on a déjà parlé du système judiciaire coréen. On va passer à Merry Christmas, Mr. Mo. Justin, je crois que tu as vu ce film, hein.
Oui.
T'es bien aimé.
Oui. Donc, déjà, on va commencer par ce que ça raconte. Donc, c'est l'histoire d'un barbier dans un petit quartier, d'un coiffeur, un barbier, bref. Dans un petit quartier d'une petite ville de province, semble-t-il, donc coréenne. Et donc, un personnage est un peu pince sans rire, qui est un peu singulier dans sa caractérisation, dans son rapport aux autres, qui est assez amusant par son côté taiseux, côté un peu absurde dans sa caractérisation. Et donc, qui va apprendre dès le début du film donc une mauvaise nouvelle, comme quoi donc il souffre d'un cancer. Et donc à partir de là, il va convoquer son fils qui est réalisateur pour l'aider à réaliser un petit film. Donc là, ils vont traverser le pays. Donc d'ailleurs, c'est l'occasion de profiter. Il y a vraiment des très beaux décors, il y a des très beaux paysages. C'est filmé dans un noir et blanc assez splendide, donc au niveau du parcours des personnages. Donc le fils arrive avec sa petite amie et donc ils vont traverser la Corée jusqu'à Séoul. Donc on va découvrir quelques secrets de famille durant le trajet. Il y a aussi le fils et le père qui ont un rapport un peu conflictuel, en tout cas ils n'ont pas l'air de beaucoup se parler, de pas beaucoup échanger. Là, il y a la mère qui est décédée depuis quelques années également, donc on l'apprend aussi. Donc c'est un joli film, quand même. C'est voilà, sur ce rapprochement. Il y a le film dans le film aussi qu'on va découvrir à la fin, qui est une sorte de film muet, un peu burlesque, assez amusant. Et c'est plutôt touchant, hein. C'est bien joué, le rapport est assez tendre, il y a une vraie tendresse envers les personnages. Puis les révélations qui arrivent font évoluer la caractérisation, notamment le personnage du fils qui a l'air d'être un peu un jeune con, voilà, entre guillemets, au début du film. Et puis voilà, on en apprend un peu plus sur son rapport avec son père, sur ses origines, sans en dire trop. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt attachant dans l'ensemble.
Olivier, t'es d'accord ?
Oui, j'ai trouvé le film touchant, intéressant. Le noir et blanc, c'est sympa, ça change. Après, j'ai un petit bémol sur la mise en scène. En fait, c'est un film qui est divisé en 5 chapitres. Et le premier chapitre, je crois qu'il est intitulé « La routine de Monsieur Mo ». Et c'est vrai que là, la réalisation colle parfaitement en fait, avec la routine. C'est des plans fixes. On n'a que des plans fixes. On n'a que ça. Sauf qu'en fait, autant la vie du personnage principal évolue, autant la réalisation ne bouge pas d'un iota. On reste sur des plans fixes pendant 2 heures.
Mais j'ai l'impression qu'il garde ses cartouches pour le film dans le film, où là, ça joue sur le côté muet, burlesque.
Je pense que ce film aurait gagné justement à ce que la réalisation, quitte à coller la réalisation à l'évolution de son personnage, parce qu'au début ça marche très bien en fait. La première partie est drôle sur cette routine un peu absurde en fait, un peu con. Autant faire évoluer aussi un petit peu la mise en scène en fait au fur et à mesure.
Je trouve que ça prend quand même de l'ampleur dans tout ce qui. Au niveau des paysages, déjà on prend l'air parce qu'on reste dans.
Tu sors de la ville.
Bah,
mais
oui,
ça
mais
reste
bon,
des plans fixes.
Parce que le début, c'est quand même, je ne peux pas dire étouffant, mais ça reste très terne volontairement par rapport à son salon, c'est la piscine, voilà, sa petite routine. Quand le film prend de l'ampleur avec les décors, les montagnes, et en même temps le rapport au personnage qui évolue, je trouve qu'on le ressent quand même, sans avoir adoré non plus le film, mais je trouve que ça, on le ressent, ça passe quand même, quoi.
Ok, bon, on va passer à toute autre chose. On va aller du côté punk avec No Money, No Future, Elias.
Alors, No Money, No Future, c'est un documentaire sur un peu la scène, mais surtout deux groupes punk sud-coréens qui s'appellent Scum Raid et Find the Spot, qui sont donc deux a priori deux groupes les punk les plus connus de Corée du Sud, mais que personne ne connaît en Corée parce que la Corée du Sud n'aime pas le punk, a priori, c'est ce qu'ils disent pendant le documentaire. Donc, invités à jouer au Japon. Donc pour une petite tournée de 5 dates pour Scum Raid et juste une date à Nagoya pour Find the Spot. Et du coup, on suit ces personnages qui sont personnages assez attachants en général dans leur groupe. Du coup, dans cette espèce de road trip, c'est un documentaire, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est important de le préciser que ce n'est pas une fiction, c'est un documentaire. Et du coup, on les suit, donc passer de la Corée donc avec ce public un peu pas forcément super là, tu vois des scènes de concert où il y a personne dans la salle, mais qui eux, genre ils sont à poil, ils sortent en courant dans la rue, mais personne les suit parce que personne dans la salle, etc. Ah, du coup, au Japon, il y a beaucoup plus de gens qui les suivent, et c'est un peu le début du succès. Du coup, c'est arrivé au Japon pour eux, et du coup, tu peux les voir donc à la fois leurs espérances, mais aussi leurs névroses, ces personnages, et ça marche plutôt pas mal. C'est un documentaire qui on peut pas lui enlever son énergie, c'est vraiment super énergétique. On aime le punk ou pas.
Énergétique.
C'est
comme une boisson.
C'est
comme
une vraie barre énergétique.
Bah, c'est le cas en plus. Hein. Bah, oui, mais le pire, c'est que c'est le cas pour le coup. Cet argument marche. Et qu'on aime le punk ou pas, c'est pas si grave que ça. Parce que, vraiment, qu'on soit allergique aux gens qui crient, aux guitares, en fait, la musique a un intérêt dans le film. Mais c'est pas. On ne bombarde pas de musique tout le temps pendant le film de A à Z, à un tel point que si t'aimes pas la musique, le film va être gâché à 100%. Ce qui compte vraiment. C'est ces personnages-là, comment est-ce qu'ils arrivent dans leur vie. Souvent des gens qui ont trois travails à côté en Corée du Sud, qui n'arrivent pas à joindre les bouts, mais qui sont là le soir, qui font la fête et qui espèrent vraiment qu'on ait des trucs à dire politiquement, ou pas pour certains, mais c'est je fais juste des gens qui sont des gens normaux, qui aiment s'amuser, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs soucis de société, et qui se mettent dans cette musique super violente pour se révolter un peu et sortir de leur routine. Et du coup, de les voir arriver à des choses, c'est super gratifiant. Dans la forme, le documentaire est super bordélique, tu vois que le réal a pas grand chose à dire, du coup il capte vraiment l'instant,
il capte vraiment les moments.
À la base, c'est pas prévu pour être un documentaire.
Oui, bien sûr. Compris. Ouais. Mais c'est
le bassiste.
C'est
le bassiste qui a. C'est le bassiste de Skunred qui filmait pour avoir en fait avoir des souvenirs de leur trip, parce que c'est extraordinaire qu'un groupe coréen aille faire une tournée au Japon.
Et du coup, c'est vachement. Même si tu vois que la pas grand chose à dire et que sur la fin, ça devient un petit peu long. T'as quelques passages, notamment un passage en Suède où il vient interviewer un ancien musicien dans un groupe de punk, t'en as rien à foutre, ça dure super longtemps et c'est super chiant. Mais le reste du film, franchement, marche vachement bien. Moi, ça m'a donné envie de faire de la musique. De nouveau. Punk.
Du punk.
Pas forcément, mais. Et juste, c'est juste cool en fait. C'est un film cool qui met de bonne humeur et qui donne envie de faire des choses, de créer des choses et de se lancer dans des projets et je trouve ça vachement bien.
Kefren ?
Moi je trouve, moi pareil qu'Elias, sauf qu'en plus ça dépeint aussi une partie de la Corée qu'on voit pratiquement presque jamais en fait, cette scène underground de musique punk.
Parce qu'elle n'existe pas en fait.
Oui, enfin, elle existe, mais elle est.
Je veux dire, c'est censé être le groupe de punk le plus connu de Corée et t'as 5 poulets à leur concert.
Elle est minuscule et tout, et justement c'est intéressant. Et surtout, le réalisateur se pose la question de qu'est-ce qu'est le punk et il crée différentes scénettes où il mélange par exemple avec des screens de commentaires de réseaux sociaux, une conversation Skype avec un membre d'un groupe qui est en Corée, qui habite maintenant au Texas, etc. Il y a beaucoup de trucs formels comme ça qui sont dans le mode do it yourself, qui justement s'inscrivent dans l'esprit punk. Et en même temps aussi, on voit à travers les personnages, les activistes en Corée, en fait, ce qu'on voit pas trop souvent, justement les jeunes activistes, c'est-à-dire les gens qui vont dans les manifestations, qui manifestent devant le gouvernement, etc. Et ça, c'est intéressant. Oui, un peu. Et ça, c'est intéressant.
Qui leur donnent envie parce qu'ils ont osé s'opposer au gouvernement.
Oui, voilà, parce que, genre, parce qu'on suit, par exemple, le guitariste, je crois, de Fight the Spot, je crois, 15 000 euros d'amende, quelque chose comme ça, à payer. Parce qu'il a participé à des manifestations, etc. Et donc, on montre comment, justement, le système lui détruit sa vie, sa carrière, juste parce qu'il a manifesté, en fait. Et ça, c'est assez intéressant et c'est assez inédit, en fait, dans le paysage cinématographique. Quoi.
Très bien, bon, on va passer au dernier film. On va voir comment une carrière peut être détruite par un œuf de gobelin. Également, ça peut arriver dans les films coréens. Avec Vanishing Time, A Boy Who Returned. Justin, est-ce que tu peux nous présenter ce film ?
Oui, donc, dans ce que ça raconte, donc, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc une jeune adolescente de 13 ans, qui a perdu sa mère, je crois, de 2 ans plus tôt, au moment où le film démarre, qui va s'installer donc, dans une nouvelle école sur une île avec son beau-père. Et donc voilà, tout le début du film la caractérise, c'est une adolescente qui a pas mal d'imagination, quoi, qui est passionnée par le fantastique et la science-fiction, et qui est assez solitaire également. Et elle va nouer une amitié au départ avec un jeune garçon, et donc voilà, où ils vont partager, voilà, on voit tout le partage, tout le partage de leur univers un peu enfantin, intime, qu'ils vont créer avec une équipe qui aura son importance dans la suite du film. Par exemple, ils vont se créer leur propre écriture, c'est ce qui va les rapprocher, une écriture qu'ils sont les seuls à comprendre. Ils ont la même passion pour le fantastique, ils vont expérimenter quelques éléments comme la lévitation, enfin l'expérience astrale, ils vont essayer de le tester un peu plus ou moins maladroitement. Donc il y a toute cette première partie qui sert vraiment à tisser leur lien, donc d'abord d'amitié et puis ensuite amoureux. Et donc il y a une péripétie qui fait basculer le film. Donc ils vont ça se passe donc dans une carrière, voilà, il y a une carrière pas loin où on veut construire un tunnel, je crois, donc il y a pas mal d'explosions, donc ils décident avec d'autres camarades d'aller assister aux explosions. Donc c'est un peu un début un peu Amblin, mais à la sauce coréenne, donc il y a un petit gros, il y a un autre personnage un peu
asthmatique forcément.
Ouais, un petit gros asthmatique, on a un autre un peu plus sportif, t'as la jolie fille, donc
et l'intellectuel, la lunette qui veut pas y aller.
Voilà. Et donc là c'est un peu grossier, mais bon.
Et du coup, il y va pas.
Oui, en plus il n'y va pas. Et donc le film s'ouvre comme ça, donc on va spoiler parce qu'il y a des rebondissements qui déterminent la suite de l'intrigue, donc on va spoiler directement. Donc ce qui se passe, il découvre une petite ouverture pour un tunnel, une sorte de grotte pas loin de la carrière. Donc ils vont s'y rendre, ils vont trouver un œuf. Et donc cet œuf, il va s'avérer que donc ils vont les garçons, voilà, la fille va oublier une barrette dans le tunnel, donc elle va retourner à chercher. Pendant ce temps, les garçons, ils vont casser l'œuf pour voir ce qui se passe. c'est un œuf de gobelin pour eux, c'est un œuf de gobelin, donc ils le brisent. Et ce qui va se passer, ils vont se retrouver coincés dans une sorte de dimension parallèle, donc ils restent sur l'île, mais où tout est figé, où le temps se déroule beaucoup, beaucoup plus lentement, donc où tout est figé, donc ils vont vieillir et grandir sur plusieurs années, une quinzaine d'années, dans cette dimension parallèle où tout avance très lentement, alors que parallèlement, la jeune fille voilà, se retrouve dans la temporalité du début du film, et fait face donc à la disparition de ses amis, mais même à l'enquête de police pour déterminer ce qui s'est passé, au harcèlement des parents de ses amis aussi, parce qu'elle finit par être soupçonnée d'être plus ou moins impliquée par rapport au mystère irrésolu de cette disparition. Et donc ce qui va arriver finalement, donc sans dérouler comment ça se passe, mais ce qui va se passer, il y a un des garçons donc, qui va se dérouler 15 ans dans sa faille spatio-temporelle, il va se dérouler 15 ans. D'ailleurs, pour préciser, il y a pas mal de bonnes idées visuelles, vu que tout est figé. Donc il y a un travail sur l'esthétique, sur ce temps arrêté, assez intéressant, vraiment avec des belles scènes vraiment très poétiques sur certaines situations. Je pense à... On va spoiler aussi, il y a un des trois gamins qui va mourir pendant l'épisode où ils seront coincés dans la faille spatio-temporelle. Donc il y a une sorte de marche funèbre quand ils vont l'enterrer, où il aura gardé sa position fœtale... au moment où il est décédé, ils vont l'enterrer sur une plage avec une espèce de soleil, une lune, moitié soleil, avec un éclairage assez, assez particulier. Et donc au bout des 15 ans, donc il aura grandi, sera devenu un jeune adulte d'une trentaine d'années, il revient dans le temps présent, il va faire face à sa camarade qui est restée adolescente.
Préadolescente.
Oui.
Elle a toujours
13
ans.
Elle a toujours
13
ans.
Ça va, 13 ans. En fait, pour elle, il s'est passé quoi, une semaine ?
Voilà, il s'est passé une semaine. Alors, pour lui, il s'est passé 15 ans. Et donc, voilà, il y a toujours cet amour, cette amitié qui est restée. Et donc, voilà, tout le film se déroule à leur fuite en avant, à essayer éventuellement d'essayer d'expliquer le phénomène aux adultes en place. Et donc il y a une scène de flashback où tout sera expliqué, assez intéressante aussi. Et donc tout le film, voilà, se déroule cette histoire d'amour interrompue quand ils étaient adolescents se poursuit, alors que voilà, ils ont changé tous les deux, donc
lui a changé.
Lui a changé, mais finalement ils ont gardé le même état d'esprit.
Il y a
son âme d'enfant, c'est ça, vous avez le droit.
Non, mais finalement, ils sont finalement restés les mêmes. Donc, il y a cette romance qui se maintient donc, malgré ce changement morphologique et puis cette séparation à l'âge adulte. Et moi, je trouve que le film gère très bien ça, parce que voilà, on pourrait penser à tout ce qui est glauque, tout ce qui est tendancieux, tout ce qu'on veut. Oui, il y en a qui y pensent. Alors que pour moi, pas du tout, en tout cas. C'est-à-dire que la romance poursuit à l'âge adulte, mais la caractérisation de la première partie fait que voilà, c'est une histoire d'amour qui se poursuit, une histoire d'amour impossible qui se poursuit face à l'environnement présent.
Et l'imagerie aussi du conte et le schéma du conte. Non, je veux dire que l'imagerie du conte que le réalisateur utilise et les schémas narratifs qui appartiennent aussi au conte empêchent de prendre cette histoire au premier degré comme quelque chose de tendancieux ou machin, même si une lecture psychanalytique du conte ferait que...
Bah oui, parce que... alors, ça c'est un des paradoxes du film, parce qu'on va en parler, Yannick en parle dans sa critique, par exemple, il n'est pas là pour en débattre, donc on va essayer de comprendre ça, mais par exemple sur cette lecture du conte, quand la première rencontre entre lui adulte et elle enfant, elle se blesse au pied, elle saigne généralement, ensuite elle est plus blessée. Hein. Du coup, effectivement, il y a une lecture comme ça qui pourrait être de prédation sexuelle. Généralement, c'est l'arrivée du loup dans le conte. Donc, quel est le point de vue du réalisateur sur le personnage adulte ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'en a pas. Mais pourtant, il laisse des indices comme ça qui diraient « vous pouvez aller vers cette interprétation ». Mais en fait, il l'évacue directement.
Pour moi, le point de vue, c'est que c'est resté le même, plus ou moins. Il a changé physiquement, mais c'est le même personnage que...
Mais pourquoi est-ce qu'il utilise cette métaphore, alors, par exemple, dans cette scène ? Si justement, cette thématique n'est pas...
Honnêtement, dans la deuxième partie, moi, je vois aucune scène tendancieuse ou qui pourrait créer un trouble où on se poserait la question. Ça reste, garde sa même candeur.
Justement, ces symboles, en fait, que ce soit la blessure au pied, le fait qu'elle soit bien en rouge à la fin, ils sont pas là pour rien.
Oui. Bah, ça reste des signes visuels pour signaler l'aspect conte du film.
Voilà,
c'est mais c'est pas du tout pour mettre un malaise ou un questionnement.
Oui, mais voilà, mais dans la même mesure où tu peux prendre les contes dans leur vision premier degré et donc le voir comme une histoire, dans la mesure que les contes sont destinés à la fois aux enfants et peuvent avoir une lecture adulte, le film a aussi ce schéma. Ça veut dire que on peut prendre le film de la manière innocente et de la manière du conte. D'ailleurs, le début du film est très dans des schémas narratifs japonais, par exemple l'élève transféré, etc., etc., qui justement nous inscrivent directement dans une espèce d'imaginaire où il n'existe pas ces choses tendancieuses n'ont pas leur place. Et en même temps, on a quand même ces symboles du conte que le réalisateur en plus a appuyé lors du Q&A, il a dit qu'ils étaient présents, et qui donne une double lecture au film. Et c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est quoi cette double lecture alors?
Mais justement, qui est justement le trouble.
Non, mais il met des signes formels, mais dans le fond du film, il n'y a pas du tout cette idée-là.
Voilà, donc, dans ce qu'il cherche. Donc, des métaphores du conte, on les dévitalise. Et...
ce qui sert, donc c'est inutile.
Non, mais moi, je pense qu'il y a quand même un trouble dans la relation, mais il est impossible de décider ou de condamner ce qui se passe dans le film.
Non, mais moi j'ai... Ah oui, parce que oui, Yannick est condamné. Moi, la lecture que j'ai, c'est que les deux hypothèses sont possibles.
Ben oui, mais moi aussi. Voilà. Mais c'est comme dans le conte, justement. Ben, c'est
un truc purement fantastique. Mais en voilà, fait, les deux hypothèses sont totalement possibles.
Elle vient d'expliciter cette en fait, lecture fantastique.
La lecture fantastique, c'est simplement que... Autant l'histoire, en fait, telle qu'on la voit, les trois garçons figés dans le temps... l'amoureux de la gamine qui revient, en fait, qui lui explique par le biais du bouquin, en fait, et de son alphabet codé, ce qu'il a vécu, est possible. Donc le type, il a pris 15 ans physiquement, mais c'est toujours un enfant. Autant la deuxième lecture, que bah, pauvre gamine, malheureusement, elle est tombée sur un pervers sexuel qui la manipule, voire qui a tué les gamins.
C'est qu'elle vit une histoire avec un homme plus âgé.
Laissez-moi finir.
Ouais. Et puis après, Justin, tu
Non, mais quand je dis pervers, qu'elle soit consentante ou non, j'en sais
rien. Oui, voilà, mais qu'elle vive une histoire
avec un homme plus âgé, ou même qu'il la manipule, en fait.
Oui.
C'est possible aussi, en lui racontant, en fait, qu'il a été figé dans le temps, que lui, elle l'a connu il y a encore une semaine, il avait son âge. Cette hypothèse est aussi possible, en fait. Il n'y a rien qui prouve l'inverse. Les deux hypothèses sont possibles. Bah, et le fantastique est là pour dire, en fait, on ne sait pas.
Je ne suis pas complètement d'accord, parce que tu as un personnage dans le film qui affirme cette hypothèse, c'est le personnage du policier, et qui va s'avérer croire, parce qu'il va être pris dans la sphère fantastique à la fin du film. Et lui, il va croire. Ce personnage-là dit textuellement ce que tu dis là, qu'il est manipulé, que c'est un adulte qui manipule l'adolescent. Il le dit c'est dit clairement dans le film. Et c'est vrai que ce personnage-là change d'avis à la fin du film.
Pour moi, c'est le loupé du film, en fait. C'est justement au dernier moment, le réalisateur, il annule tout ce qu'il a fait, en fait, dans le film, en laissant les deux pistes. Il laissait les deux pistes sur les trois quarts du film, et au dernier moment, on va évacuer la piste.
Parce que la piste qu'il a choisie, c'est l'interprétation que lui a de ce qu'il raconte.
Au dernier moment, c'est con. Soit tu laisses pas une deuxième piste se développer pour la couper comme ça, en fait.
Il veut créer un trouble. Dans le film, mais le fait d'orienter ce personnage-là, c'est pour dire moi j'ai choisi que ça soit une romance entre deux personnages, il veut pas qu'on voit un autre aspect.
Moi aussi, comme Elvire, c'est pour moi c'est ça le gros point faible du film, c'est qu'il coupe court à une interprétation plus sulfureuse.
C'est pas ce qu'il cherchait.
Oui, non,
là vous allez chercher.
Oui, non, mais c'est pas ce qu'il cherchait. Mais dans le Q&A, il a dit que c'est ce qu'il cherchait à la base. Il a dit qu'à la base, son film était plus noir et plus adulte.
Une ado avec un
vieux. Il a dit ça, mais il a aussi dit que par rapport à des événements en Corée avec les naufrages, il a voulu faire un film plus positif.
Oui, voilà.
D'où, finalement, l'interprétation finale qui est plus l'histoire d'amour que autre chose.
Un des problèmes du film, c'est qu'il reste quelque chose, peut-être, de cette première mouture dans le film. Il y a des pistes comme ça qui sont évoquées, même y compris la pédophilie, c'est dit par un personnage, le personnage du film.
C'est un personnage extérieur qui n'y croit pas.
C'est un personnage extérieur, mais c'est quand même dit dans le film, du coup, la thématique est quand même textuellement dans le film.
Moi, je trouve c'est un problème de...
Il évacue tout ça comme s'il voulait... complètement évacuer tout l'aspect sulfureux, tout l'aspect un peu dérangeant de son histoire pour ne garder que quelque chose d'assez lisse au final. La deuxième partie ne marche pas.
En fait, c'est exactement le propos du film parce que lui, il a démarré sur le projet de base était assez sombre. Il a voulu partir sur quelque chose de plus lumineux.
Et
forcément, là, cet aspect-là s'estompe pendant le film volontairement.
Pas trop, en fait.
Pour moi, c'est un point positif.
Ça aurait pas été condamnable du tout qu'il laisse les deux pistes se développer.
Mais moi,
j'aurais pas eu. Enfin, je condamne d'ailleurs pas du tout la
pédophilie.
Mais non, mais l'hypothèse de la pédophilie dans le film, je vais pas la condamner en fait. C'est...
Surtout qu'il y a des films, il y a d'autres films si vous voulez voir ça, de ce genre de choses où c'est plus ambigu. Il y a par exemple, je sais pas si vous l'avez vu.
Pourquoi on dit Alain ?
Non, non, mais un film, bon, en plus avec cet aspect conte là, si vous l'avez vu, c'est La Compagnie des Loups de Neil Jordan. Personne ne l'a vu. Bon, c'est une relecture du Petit Chaperon Rouge. Donc, où là, c'est textuel, il joue, il y a une atmosphère onirique, où il y a vraiment un jeu là-dessus. Donc, pour les auditeurs qui l'ont pas vu, je recommande fortement. T'as un autre film comme ça des années 60. C'est un film français qui a eu l'Oscar même du meilleur film étranger dans les années 60, qui s'appelle Les Dimanches de Ville d'Avray. C'est pas connu. Donc, mais c'est des années qui est ressorti en salle il y a quelques années. Où là, on peut pas. C'est un peu comme d'ailleurs comme dans le film coréen dans le Vanishing Time, où on peut avoir cette lecture-là, mais par rapport à l'innocence qu'il met dans le film, dans la dimension enfantine auquel il associe même le personnage adulte, c'est impossible d'avoir cette lecture-là. Ouais, pour les auditeurs que les Dimanches de Ville d'Avray.
Oui, non, je suis d'accord. Tu croyais que tu parlais de Vanishing Time. Non. Parce que si, c'est possible d'avoir cette vision.
Oui, mais dans Vanishing Time, il insiste quand même sur le fait qu'il soit resté un enfant aussi. Donc, oui. Parce que par exemple, ses dessins, etc. C'est-à-dire, il se comporte exactement c'est comme lorsqu'il
comme
était
un adolescent.
Parti,
quand il y a le dessin qui fait d'elle dans la maison abandonnée.
Non, mais il se comporte exactement comme il se comportait avant. Donc
mais même, il joue mal.
Honnêtement, mention spéciale déjà, à son mauvais jeu.
Déjà, l'acteur joue extrêmement mal, c'est très dérangeant. Et même d'ailleurs, bon, là on part dans des débats un peu extra-cinématographiques, mais qui sont quand même évoqués dans le film. Le temps passe pour lui, c'est pas un temps subjectif qui est resté figé.
C'est-à-dire pourquoi il serait resté enfant aussi,
son corps vieillit et lui vit 15 ans.
Alors il ne vit pas la vie de 15 ans.
Il est seul pendant 15 ans, aucune interaction.
Il vit comme
dans un pendant 15 ans.
Je t'enferme pendant 15 ans dans une pièce et je te ressors. On va voir comment tu vas ton rapport à ton environnement.
Un, il n'est pas dans une pièce. Et deux, légalement, moralement, c'est un adulte. Il a 30 ans dans le film.
Il n'a pas vécu une vie qui l'a mené à être un adulte.
Il n'a pas eu les expériences qui le conduisent à être un adulte.
Être un adulte, c'est pas passer d'un âge à un autre comme ça, c'est vivre un cheminement qui mène.
Être adulte, c'est tes expériences, c'est ton expérience, c'est ton rapport aux autres qui évolue, c'est ta compréhension, ton intelligence.
Être adulte, c'est un concept.
On est sur du Michael Jackson.
Non, mais attendez, être adulte, c'est un concept social et quand tu vis hors de la société, tu veux pas être considéré comme étant adulte si t'as vécu tout seul machin. Genre vous voulez dire un enfant qui a vécu tout seul dans la forêt tout d'un coup il a 20 ans il est adulte
mais Michael Jackson
il a vécu en société c'est pas pareil on parle quelqu'un d'isolé qui a parlé à personne pendant 15 ans
ils étaient deux genre il y a leur pote qui est mort et tout
c'est pas tout à fait vrai il vit dans un environnement social qui est figé qui est fantastique mais il a accès quand même à de la connaissance
le rapport aux autres le rapport humain
il vit dans un monde d'idées on te montre que on te montre que pendant 15 ans, il est en train d'apprendre des concepts philosophiques et théoriques sur le monde. C'est-à-dire, ils ne vivent pas. C'est-à-dire, ils sont là en train de réciter des théories de. philosophes et de machin, et ils ont fait aucune expérience de rien. Ils ne peuvent pas être considérés comme des adultes. Genre, ils connaissent rien. Enfin, ils connaissent justement que ce qu'ils ont vu dans les livres, etc.
Et d'ailleurs, son rapport à la jeune fille, ça reste le rapport d'un ado qui... Voilà, il y a le seul moment tendre qu'on a dans le film, c'est dans l'introduction, voilà, ils se font un bisou. Et pour lui, le rapport à une fille, ça s'arrête là.
Il
se prête la main, il fait un bisou, ça s'arrête
d'ailleurs
là.
D'ailleurs, c'est la fille qui lui parle, mais genre, il n'ose même pas toucher la fille, genre, pendant tout le film. Il marche derrière elle, etc.
Elle a un short, en plus, à la fin.
Ouais, non mais et sinon je voudrais dire que le film ressemble exactement au drama Gobelin qui raconte exactement la même chose et c'est un conte coréen populaire. Mais c'est aussi bien réalisé et justement l'héroïne est la même, c'est exactement le même personnage.
Ça c'est du plagiat en fait.
Je sais pas, mais après le réalisateur c'est intéressant parce que pendant le Q&A quelqu'un lui a posé la question, je suppose que c'est un rapport à ça, et il a dit que non, il a tout écrit tout seul. Alors que c'est genre le succès de, en Corée de drama.
Et
il y a Gong Yoo.
C'est un plagiat.
Et puis il faut dire que formellement c'est quand même un beau film, le paysage de
ville. C'est ça, voilà, on va dire, point de vue que formellement, je trouve que c'est très joli, que les scènes.
dans le temps arrêté sont vraiment super jolies.
Ouais. Il a raconté que ça a été assez difficile à tourner dans le
film. Ça a été fait en live, moi je pensais que c'était sur couvert, en fait non, c'est fait en live.
C'est fait en live.
Respect.
Donc ils étaient obligés de surveiller, raconter qu'il y ait personne qui cligne des yeux, même au montage.
La rythmique par contre.
Ah bah bizarrement, en salle, moi je me suis pas fait chier.
Non, moi aussi. Non, moi ça a marché parfaitement.
C'est vrai, je rejoins Elias là-dessus, il y a au moins une demi-heure du film qui se passe sur l'île où le temps est suspendu, qui est vraiment très belle plastiquement. Il y a des vraies trouvailles visuelles. La deuxième partie sur l'enquête traîne un peu et un peu plus convenue et je la trouve pas très crédible en fait. Même si on prend cet aspect conte et métaphorique du coup qui est pas abouti, les réactions des personnages, la manière dont c'est envisagé sur l'île, moi j'y ai pas cru en fait. C'est surtout ça pour moi le défaut du film aussi.
Ben voilà, on l'a eu notre débat en fait sur Manu.
C'est bien passé, hein. Je suis
déjà pour l'instant.
On attend vos commentaires.
Lâchez vos coms.
On va finir rapidement sur la section portrait qui était consacrée. Donc, comme à chaque année, c'est un.
Ah, le fantôme de.
C'est l'œuf du gobelin.
Moi, je vais reprendre. Nous allons terminer par la section portrait qui, chaque année, est consacrée à un jeune cinéaste. Cette année, c'était Cho Ying-hong, qui a fait un film, donc son premier long-métrage s'appelle Jane, et il y avait plusieurs de ses courts-métrages, deux de ses courts-métrages en fait, qui étaient présentés cette année. Elias, tu l'as rencontré. C'était quoi un peu son parcours ?
Son parcours, c'est un parcours vraiment de base en fait. C'est le mec qui a fait l'école de cinéma et il a fait un court-métrage.
Ah ben voilà,
c'est une petite version de Jane. Et son court-métrage a gagné une bourse pour le film, une bourse du film d'art en Corée du Sud, et du coup il a fait son long-métrage qui est la version longue du court-métrage, qui est la version courte de Jane.
Il aurait dû rester un court-métrage.
Et Jane, ça parle de
Jane, en gros, ça parle de quelque chose en fait. Ça parle d'une fille.
Je sais pas quoi, mais
ça parle d'une fille qui est perdue et qui rencontre des gens pendant 2 heures et qui rencontre Jane, qui est une transsexuelle.
On apprend que c'est une fugueuse. Non mais c'est quoi, non,
oui, c'est une fugueuse. C'est vrai que c'est une fugueuse.
C'est une fille qui rencontre des gens.
Bah ouais, c'est une fugueuse qui en fait bah ah oui. C'est vrai que ça parle de ça.
Elle squatte en fait.
En fait, elle squatte chez des gens et elle recherche sur le côté un ex à elle qui l'a largué dans un motel un jour. Du coup, elle reste toute seule dans là. Ça, c'est le point de départ du film. Du coup, elle revient au motel où elle rencontre Jane, qui est un transsexuel qui était aussi amoureux du coup du même homme. Et du coup, le début du film en fait part sur ce sujet, c'est-à-dire que l'héroïne et Jane vont chercher un petit peu ce personnage-là. Donc, en fait, au bout de 20 minutes, 25 minutes. Le personnage de Jane disparaît pour certaines raisons, et avant de disparaître, propose en fait à la fugueuse du coup de dormir dans une espèce de communauté de fugueurs créée. Oui, non, je crois que je faisais une connerie.
Il y a presque une pile,
une espèce de communauté de fugueurs et qui du coup vivent ensemble dans une maison. Et il se passe des choses bizarres dans la communauté. Et ensuite, la suite, c'est pendant une heure. Où c'est pas des choses, soit vrai ou soit le rêve, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, elle est perdue, tout le monde est perdu.
Donc globalement, voilà. c'était pas une grosse découverte, on avait eu.
Non mais en fait, le problème c'est que j'arrive pas à le résumer, parce que en fait, ce film n'est pas résumable dans le sens que scénaristiquement, c'est extrêmement décousu. Et c'est vraiment narrativement pas du tout mis au point en fait. C'est-à-dire que Jane, pour moi, c'est vraiment très premier film, c'est-à-dire c'est vraiment très m'as-tu vu. Visuellement, il y a beaucoup de trucs visuels qui sont assez jolis, assez intéressants, mais d'un point de vue narratif, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, et ce qui fait qu'en fait, franchement, si je résume mal, c'est parce que c'est ce que j'ai compris du film en fait, et pourtant je l'ai vu, et je l'ai parlé au réal, et j'ai vu ses courts-métrages, mais c'est pas un film abouti d'un point de vue scénaristique, et vraiment, on passe le temps à se demander, mais qu'est-ce qui se passe ici, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est. Et du coup, à force de nous perdre, le film perd carrément de vue, et nous fait perdre de vue son sujet. Effectivement, comme a dit Victor, c'est Steel Flower en beaucoup moins intéressant, en beaucoup moins bien rythmé, en beaucoup moins compréhensible.
Ouais, c'est pas moi qui dis ça. Non, c'est
moi qui dis ça.
Comme a dit Elvire. Désolé de faire du mansplaining. Donc voilà, c'est Steel Flower en moins bien.
Très bien, on va pas s'étendre du coup sur cette section portrait qui était un peu décevante cette année. Ouais. Pourtant, généralement, révèle des bons cinéastes. Donc c'est un peu
dommage. On a
eu quand même. Julie Jung, c'était bien. Lee Soo Jin.
Bon, d'autres fois, c'était pas top, mais c'est court, c'était bien.
C'était bien. C'était
bien. C'était bien.
Bon, on va faire un petit dernier tour de table pour faire un petit bilan du festival.
Est-ce qu'on a fait au début, en fait.
Est-ce que c'est ce qu'on a fait au début, mais là, c'est médiatisé par tout ce qu'on a dit, donc on revient. Mais peut-être sur ce que représente le festival pour le cinéma coréen, et du coup, quels sont, s'il y a des oublis aussi, si vous avez des attentes, des regrets, des films que vous auriez aimé voir. Nicolas.
On a un peu tout dit sur les films importants de cette sélection. Il y avait d'autres films intéressants, dans tous les genres d'ailleurs. The King's Case Note, on a un peu parlé, mais c'était plutôt une bonne comédie. Je sais pas si d'autres l'ont vu finalement, pas du tout. Bah, c'est pas un grand film, mais c'est assez sincèrement. C'est aussi un buddy movie quelque part, parce que. On y suit un espèce de libraire, enfin je sais plus, il retranscrit en fait tout ce que dit le roi dans le personnage, et justement il est accompagné du roi en permanence, et le roi a des envies de faire le détective quoi, pour révéler un espèce de complot au sein de sa propre cour, enfin voilà, c'est un super classique. Quoi. Mais à partir de là, il y a une espèce d'enquête avec les deux qui est assez drôle. Il y a un côté un peu Scooby-Doo, parce que à un moment, tu as des gens qui sont attaqués par un monstre marin, genre un monstre du Loch Ness, et on comprend plus tard que c'est toute une machination qui a été mise en place pour faire croire que c'est un monstre alors que non. Et voilà, c'est assez intéressant. Et il y a aussi des combats assez sympas sur la fin.
Un regret, un oubli. Autre chose,
Non, c'était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'instant politique du jour, c'est qu'on voit que la Corée a pas mal bougé ces dernières années. On a pu le voir justement à travers les films de qui ont été présentés au FFCP ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu la transition politique avec la fin de Park Geun-hye. Et tout ce qui a été fait, cette politique avec les violences policières. Extrême qu'on voit encore dans le cinéma coréen aujourd'hui par rapport aux citoyens, aux manifestations qui ont eu lieu là-bas. Et là, aujourd'hui, on est en 1er novembre et c'est le jour où on passe en état d'urgence permanent. Ce qui fait que le gouvernement français c'est-à-dire que le gouvernement pourra, sous prétexte d'état d'urgence, faire n'importe quoi, prendre le pouvoir sur n'importe qui. Interdire n'importe quelle manifestation qui pourrait contrecarrer le pouvoir en place, entre guillemets, et ça c'est un truc qui est vraiment inquiétant et qui est en train de se passer. On a vu ce qui s'est passé en Corée par rapport à ce genre de politique-là, donc ça fait peur.
Elvire ?
Oui, donc on m'a dit que c'est une très bonne édition du FFCP comme depuis quelques années.
Depuis 3 ans.
Ouais, en fait, je dirais que le principal défaut qu'on voit actuellement dans le cinéma coréen, c'est que les réalisateurs sont des très très bons exécutants. Mais on a du mal à dépasser ce stade d'exécution, en fait. Et ça fait quand même quelques années que ça dure. On ne trouve pas, en fait, on parlait de folie, mais on ne trouve pas simplement d'artistes. C'est compliqué. Donc j'aimerais bien, en fait, que d'ici quelques années, on ait vraiment un nouveau Park Chan-wook, un nouveau réalisateur qui nous en met plein la gueule. Alors c'était super bien Battleship Island, mais
c'est pas un film d'auteur, c'est pas un auteur, je veux dire, par auteur, je veux dire, par auteur, je veux dire, même par Ron Jeannot, c'est un auteur, etc. Je veux dire, c'est pas un film d'artiste.
Donc voilà, c'est le petit regret, mais qu'on dit à chaque podcast en fait depuis plusieurs années, donc c'est de la répétition là.
Et sinon, un truc bien aussi, c'est que ça faisait quelques années, là, j'ai l'impression qu'on en est sorti avec cette sélection-là. C'est les films sur la période d'occupation des Japonais.
Ah, non, c'est pas
Deuxième
fini.
Guerre. C'est pas fini. Bon, en tout cas, dans l'échantillon qu'on a eu là, on a l'impression que ça s'était calmé.
Là, c'est une vague. Là, on a la fin de la vague, je pense.
Bon, en tout cas, sur l'échantillon qu'on a eu, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'il y en a moins, parce que c'était des films, là aussi, très bien faits, très prenants, tout ce qu'on veut. Mais c'était lassant d'avoir toujours cette même période traitée, toujours cette période-là. Et puis, on dirait qu'ils n'avaient pas encore. Bon, c'est normal qu'ils n'aient pas digéré, j'allais dire, ils n'ont pas encore digéré, c'est normal.
Ouais, ça va, quoi, ça va.
Voilà, c'est bon,
ils
ont été occupés, basta, quoi. Non, mais bon, c'était bien d'avoir un renouvellement, puis qu'ils abordent d'autres périodes politiques plus contemporaines.
Après, le cinéma coréen a tendance à exploiter les filons jusqu'au bout. Hein. Donc, quand il y a un filon qui fonctionne au cinéma,
on va l'avoir pendant des années. Comme ça, en France, pareil.
Certainement, oui.
Elias.
Ouais, moi en fait, je reviens pour conclure un peu ce que j'ai dit en introduction. C'est-à-dire que le FFCP, c'est toujours bien, mais c'est jamais... Enfin, si, c'est parfois très bien, même. Mais en fait, on n'est jamais étonné. Je ne sais pas si c'est le FFCP en tant que tel, ou si c'est le cinéma coréen qui est comme ça en tant que cinéma. Mais j'aimerais bien, des fois, voir un truc qui me... juste. Si, l'année dernière, il y avait eu qui était assez marrant, qui m'avait justement un peu étonné de voir ça au FFCP, c'était le projet Get Up and Go. Donc, j'en parle un peu, qui était vraiment très drôle et... Mais c'était pas bon, c'est quand même très drôle, c'était différent un petit peu, mais justement, je regrette un peu des films un peu différents, qui sortent pas un peu de la, qui sortiraient un peu de la routine de ce qu'on peut voir. Tu vois, je pense à Pinocchio, je pense à Happy Hour, qui est un truc qui sort de nulle part, qui dure 5 heures et qui est absolument un objet filmique en tant que tel qui est intéressant parce qu'il, par sa longueur et par sa radicalité.
Même en festival, en fait, dans les autres, quand on regarde les festivals internationaux, il n'y a pas de film coréen comme ça. En fait.
Ouais, c'est là. C'est
donc je sais pas si
c'est le FFCP. Je pense qu'il y a une très très bonne sélection.
On avait une café noire.
Ça date, non?
Mais c'était en 2012.
À l'époque où Istasiam
avait des bonnets, ouais.
Donc.
Non, mais voilà, je critique pas du tout le FFCP. Je pense qu'ils font un super travail en tant que tel. Mais enfin. Pour les réels coréens qui nous écoutent, faites des films un peu plus. Par jour, quoi. Lâchez-vous, bordel.
Peut-être qu'ils en font, mais c'est pas ce qui est sélectionné.
C'est sélectionné nulle part dans ce cas, parce que quand tu regardes Cannes, Berlin, Venise,
ils sont pas vus.
Il n'y a pas, ces films-là. Ils sont pas en sélection.
Même petit geste comme ça, même petit festival.
Ils sont pas en fait.
Tu vois. À l'étrange, les films coréens, c'est les. On n'aime plus parce qu'on fait des VEDEI, c'est toujours la même chose.
Donc j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. En tout cas avec un budget confortable, qui sera donc un film bien foutu. Non.
Même du cinéma indépendant, parce qu'on en voit pas mal de cinéma indépendant au FFCP. Mais... Et finalement ce sont des films dont on a parlé, enfin, des films qu'on a bien aimés. Mais
pour un peu barge, j'avais le documentaire.
Dans les documentaires, il y a peut-être encore des trucs à faire.
C'est un peu le projet de Pringles.
Ouais, ben moi c'était pareil, sauf que j'ai bien aimé leur session sur les années 80 vue par la Corée sous Park Geun-hye justement, qui est sur un écho.
Oui, il y a des films
intéressants
aussi.
Oui, c'était très intéressant. Il y avait National Security.
Oui, on n'a pas parlé de la section Focus, donc c'était sur les années 80, l'occasion de Taxi Driver.
Et National Security justement était vachement intéressant sur la torture et comment ils utilisaient la torture au sein de la dictature. Mais sinon, pour parler de manière plus générale, on taxe souvent le cinéma coréen d'être le cinéma de propagande et anti-japonais. Et justement, il y a des films cette année.
C'est un peu vrai quand même.
Non, mais il y a des films cette année justement qu'on pouvait le concevoir comme The Fortress, parce que ça raconte quand même pendant 2h20 comment la Corée est humiliée par un empire mongol. Donc on peut pas taxer non plus le cinéma coréen d'être propagandiste, alors qu'ils mettent eux-mêmes en scène magistralement leur propre humiliation qu'ils ont subie dans leur histoire.
Ils aiment bien aussi mettre en place.
Mais dans le film nous montre que.
Oui, justement, c'est aussi l'histoire montre.
Non, ils sont pas martyrs dans le film, on ne les montre pas comme des martyrs.
J'ai pas vu ce film, mais justement. On prend un film comme VIP qui, pendant 2 heures, nous dit voilà, c'est le système entre la Corée du Nord et la Corée du Sud où finalement les rouages font qu'un criminel ne peut pas être arrêté. À la fin, on a quand même la revanche de l'agent coréen sur la CIA. Et il dit, voilà, on est obligé d'avoir le dessus sur les Américains, qui finalement sont des crétins, et on revient sur le côté...
Mais quand même, ça montre qu'il y a une défaite du système coréen. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les Coréens ne sont pas dupes de leur propre pays.
Parce que là, c'est plus l'individu que la Corée qui gagne à la fin.
Voilà, contrairement à ce qu'on peut croire.
C'est l'individu, mais c'est quand même le Coréen qui a le dessus sur l'Américain à la fin. C'est quand même le point final du film, c'est ça.
Non, c'est surtout un homme qui a sa vengeance sur un autre homme. Mais ce que je veux dire, c'est que on taxe souvent le cinéma d'être propagandiste et d'être anti-japonais, etc. Et c'est pas vrai en fait.
C'est sûr, le japonais est très crédible dans Hotel Shit Island. Il est tellement mesuré, son personnage.
Ils ont peut-être encore un peu le droit d'être.
En plus, déjà, ça fait que 20 ans que c'est une démocratie, donc ils peuvent se permettre de revisiter leur histoire à travers des blockbusters, mais. En plus, c'est pas vrai en fait, c'est pas un cinéma propagandiste pro Corée du Sud en fait.
Bah, ils ont eu leur petite période, mais ça se calme.
Il y a des films du début des années 2000 comme Chirini ou des trucs comme ça où,
ils l'ont eu même jusqu'à très peu de temps même. Je sais pas, il y a encore 2 ans.
Mais il y avait Roi Rincurant.
Au FFCP, c'était.
Assassination.
Ouais, Assassination. Mais là, ça se calme aussi en fait.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe des voix dissonantes et pas tous les blockbusters. C'est-à-dire, c'est pas un truc.
Pas d'amalgame.
Très bien, on va. Alors, Elias, pour conclure.
Juste tout petit, parce que justement, c'est sur un court métrage.
Ouais.
Donc toute petite intervention. Ouais, aussi, pour finir, en fait, j'ai pas vu le court métrage, mais le dernier le gagnant en fait du prix, donc Flying Asia, qui sera donc diffusé l'année prochaine. C'est pas grave, s'en fiche. Qui a donc gagné du coup le prix du meilleur court métrage et s'appelle Alone Together de Baek Kyung-eon, qui est un très beau court métrage sur une.
Qui a été donc projeté
juste avant Zemimi, qui a été beaucoup mieux que Zemimi d'ailleurs.
Oui, ça va.
Et donc Baek Kyung-eon sera présent l'année prochaine a priori pour, par rapport à, au prix qu'elle a gagné.
Ouais.
Et donc je vous conseille d'aller voir ses films l'année prochaine.
Très bien, bah, nous on se retrouve dans un mois en décembre, on va faire un podcast spécial cinéma japonais puisqu'il y a Kinotayo qui a lieu en ce moment, il y a Outrage Coda qui est disponible en VOD et L'Habitant de l'Infini aussi sur Netflix, voilà, ça nous permettra un peu de faire un point sur le cinéma japonais cette année. Et on se retrouvera aussi en novembre avec un podcast hors Asie. Donc ça va être le deuxième, j'espère que vous avez écouté celui de Twin Peaks qui sera un Marvel versus DC à l'occasion de la sortie de Justice League. Voilà, bah, ça va être développé pendant 2 heures et puis pour parler des podcasts, on va aller jusqu'en fin d'année, début fin 2017, début 2018, on fera un gros podcast bilan de l'année comme d'habitude.
On fera le bilan quand même.
See you, Space Cowboys.
Vous êtes un secret. Comme quoi, je. Je sais que c'est un peu de temps, mais pas tant
que ça. Je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire que